Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Ce soir, nous allons donc continuer sur l'Apocalypse.
Et
nous en sommes presque à la fin. Là, nous en sommes en train de voir un peu ce qui va se passer dans l'éternité, ce que Dieu a réservé. Il nous a réservé tellement de bonnes choses dans son royaume éternel. Rappelez-vous que l'Apocalypse, ce n'est pas la tribulation. Même si la tribulation en parle beaucoup, on en parle beaucoup dans l'Apocalypse. Même si Dieu a voulu nous montrer un certain nombre de choses qu'il va faire sur la terre pour reprendre sa propriété. Mais l'Apocalypse est une question de royaume. Restauration et instauration de son royaume. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'Apocalypse. C'est le point final. C'est l'arrivée de toute chose, la consommation du salut. C'est toute la gloire qui nous est réservée là où le temps n'existera plus, là où tu ne compteras plus les années, parce que ça s'appelle l'infini de l'éternité. Et c'est étonnant d'ailleurs de voir comment Dieu nous donne sur cette terre une chance de le rencontrer, ce qui va déterminer toute notre destinée éternelle. Il a dit, dis un simple oui à mon évangile. Repends-toi de tes péchés. Accepte celui que j'ai envoyé, mon fils. Reçois-le comme sauveur personnel. Et d'un seul coup, ta destinée éternelle est complètement changée. C'est ça que j'aime avec Dieu. Une obéissance a des conséquences éternelles. C'est ce que nous avons fait quand nous avons reçu Jésus comme sauveur personnel. Alors brièvement, nous avions vu pas mal de choses dans l'Apocalypse. Je vais faire un petit résumé. Parce que ce soir, nous allons continuer d'étudier le jugement éternel. Le jugement dernier. Parce que nous verrons qu'il y a un jugement pour les pécheurs. Et puis après, je pense que nous aurons le temps de rentrer dans l'éternité. Là où Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors, nous avons vu au chapitre 1, donc il y a la révélation, Jésus apparaît, Jésus glorifié apparaît à Jean. Chapitre 2 et 3, il y a le message aux sept églises qu'on va d'ailleurs revoir un petit peu ce soir. Et puis à partir du chapitre 4, il n'y a plus l'église sur la terre. Ça nous a amené de comprendre certaines doctrines indispensables avant de pouvoir continuer dans l'Apocalypse. D'abord, nous avons parlé de l'enlèvement de l'église. Parce que Dieu après va juger la terre pour reprendre la gestion de sa propriété et détruire tous les systèmes de ce monde. Vous vous rappelez que les systèmes de ce monde ont trois volets: politiques, économiques et sociaux. Et qu'avec la chute d'Adam et Ève, Satan a récupéré la gestion de ces systèmes. Donc la gestion de la terre. La propriété de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il a prophétisé dans sa parole des événements souverains. C'est-à-dire qui ne dépendent pas de ta foi. Qui ne dépendent pas d'une obéissance d'X, Y ou Z. Mais seulement qu'il a prédéterminé à l'avance. Ça fait partie d'un des volets du prophétique dans nos vies d'ailleurs. Ces événements que Dieu a prédit, que nous vivrons. On a vu que l'enlèvement de l'Église est un événement sans précédent. C'est le premier retour de Jésus. Jésus vient chercher son Église. Les morts en Christ, donc qui sont au troisième ciel, ressuscitent premièrement. Nous les vivants, nous sommes transformés. Je vous rappelle que c'est la première phase de la première résurrection. Parce que nous savons maintenant qu'il y a trois phases de la première résurrection. La première phase de la première résurrection, c'est au moment où Jésus vient enlever son Église. Et là, on voit vraiment qu'il va y avoir quelque chose de très spécial. Et Dieu nous a réservé le meilleur parce que nous avons choisi de donner nos vies à Jésus pendant le temps de l'Église, pendant le temps de la grâce, pendant le temps où chacun peut se moquer ouvertement de Dieu sans que Dieu ne dise quoi que ce soit. Donc, enlèvement de l'Église. Jésus protège sa bien-aimée. Ensuite, nous avons vu les 70 semaines d'années de Daniel. Et nous avons vu que dans les prophéties de Daniel, jusqu'à temps que le Messie soit retranché, il y aura 69 semaines d'années. C'est déjà fait. Il y avait une semaine d'années, encore 7 ans à exécuter prophétiquement. Je vous rappelle qu'aucun prophète de l'Ancien Testament ne voyait. Mais l'horloge prophétique pour Israël s'est arrêtée quand Jésus est mort sur la croix. Après, il y a eu le mystère de l'Église. Chose cachée aux prophètes de l'Ancien Testament. Et quand l'enlèvement arrivera, l'horloge prophétique pour Israël recommence et il y a les 7 dernières années avant que le roi des rois ne récupère la gestion de sa propriété. Donc, en fait, nous avons étudié aussi cet aspect de la statue de Daniel. Donc, c'était dans Daniel 2 aussi. Donc, on a étudié pas mal de choses sur Daniel. Puis, aussi, nous avons vu le tribunal de Christ, tribunal de récompense, jury de récompense pour nos récompenses à nous pendant 7 ans. Sur ce que nous aurons fait, donc, en Christ. Donc, maintenant, vous savez ce que c'est tout ça. Vous savez que votre salut est gratuit. Et votre position dans le royaume futur, il faut la gagner parce que Dieu vous demande de faire certaines choses. L'obéissance va vous aider à faire votre destinée. Et cette destinée donc va vous amener, plus vous en faites, plus vous aurez une position élevée dans le royaume de Dieu. Si Dieu t'a appelé à être prédicateur, sois prédicateur. Si Dieu t'a appelé à faire du business, fais du business. Si Dieu t'a appelé à faire différentes choses dans la vie, fais ce que le Seigneur t'a demandé. Fais uniquement ce que Dieu t'a demandé. Tu n'auras une récompense sur seulement ce que Dieu t'a demandé de faire. Nous serons beaucoup surpris à ce moment-là, pour les récompenses. Beaucoup de choses qui sont aujourd'hui et que les gens présentent être des œuvres de Dieu ne sont pas des œuvres de Dieu. C'est bien triste, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent beaucoup de choses, beaucoup de moyens pour se donner de la gloire personnelle ou pour faire des choses qui ne sont pas bibliques sous le nom du Seigneur et ils n'auront pas de récompense pour ça. C'est pour ça, fais attention à ce que tu fais, que ce soit dans le Seigneur. C'est très important de comprendre ça. Donc, on sait qu'à partir du chapitre 4, là, on a une magnifique vision du ciel.
Igice cya kane baratwereka ijuru mu buryo bwiza
cyane. Le trône, les 24 anciens, etc., etc.
Intebe y'inganji y'Imana, intebe 24 z'abakuru.
Puis chapitre 5, nous le savons, Jésus est le seul qui va ouvrir ce fameux livre scellé de sept sceaux. C'est les jugements de la fin des temps, les jugements de la tribulation.
Igice cya gatanu rero Yesu atwereka igitabo kirimo udushasha gitombagijwe ku dushasha rindwi.
Donc on sait que il va y avoir les six premiers sceaux qui vont être ouverts les uns après les autres.
Aho udushashara dutandatu tuzokuguruka kamwe inyuma ya kandi dutandatu
twa mbere. Et puis le septième sceau, il va y avoir sept trompettes.
Kukindwi hace hazamwo inzambi ndwi.
Et on a vu Dieu accélère ses jugements, plus on avance dans la tribulation, plus Dieu accélère ses jugements.
Twarabonye ko uko bigenda biraheri imanza zigenda iminsi igendera genda niko Imana inyarutsa imanza zayo.
Nous avons étudié en parallèle Matthieu 24 bien sûr.
Et
quand on étudie Matthieu 24 en parallèle à la tribulation, à l'avancement de la tribulation, on voit très très bien l'avancement, je dirais, de la tribulation. Donc on a vu aussi, il y a pas mal de parenthèses sur un certain nombre de révélations, comme les 144 000, comme les deux témoins, comme évidemment aussi ce qui s'est passé avec le diable tout au début, comment aussi il va y avoir la grande tribulation, donc la tribulation est coupée en deux, nous le savons, 3 ans et demi. On a ensuite les sept coupes de la colère de Dieu à la septième trompette. Et là, nous avons étudié comment Dieu va en finir une bonne fois pour toutes avec les systèmes de ce monde. Et les sept coupes de la colère de Dieu, ça va être encore des jugements accélérés. Et Dieu va frapper tellement fort la terre que là, le diable va être obligé de lâcher. Et nous avons vu qu'il va y avoir cette fameuse grande prostituée, la Babylone la grande. Nous avons vu cela et nous avons vu que c'est le symbole ni plus ni moins du quartier général satanique des systèmes de ce monde. Et il y a une immense joie dans le ciel quand on sait que ces systèmes de ce monde vont complètement tomber. Que tous ceux qui ont repris la marque de la bête, eh bien, vont se retrouver complètement vaincus. Nous savons qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont naître de nouveau pendant la tribulation. Et nous avons vu qu'un certain nombre de ces chrétiens-là vont renier le Seigneur et vont perdre leur salut. Parce qu'à la fin de la tribulation, c'est clair, il y a deux camps. Ceux qui ont pris la marque de la bête, c'est-à-dire qu'on fait cette alliance spirituelle irrévocable avec le diable.
Où
le diable leur donne des privilèges d'acheter, de vendre. Il les contrôle complètement. Et les gens auront accepté cela. Et un bon nombre de gens, même qui se seront convertis, ne supporteront plus d'être persécutés. Ils renieront Jésus pour accepter la marque de la bête et après ça sera fini. Mais un certain nombre de gens aussi, de chrétiens, vraiment de pleine conviction, vont résister jusqu'au bout. Nous l'avons vu, beaucoup vont se faire assassiner pour leur foi, les martyrs. Puis Jésus revient pour la deuxième fois. Israël est au bord du gouffre. Il y a un immense réveil en Israël. Mais toutes les armées du monde se mettent contre Israël.
Nous
avons vu, c'est la bataille d'Armageddon. Cette fameuse vallée qui est à quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem. Et en fait, on a vu que là, ça va être une bataille finale. Jésus revient, détruit l'Antichrist, le faux prophète. Nous sommes avec lui. Et là, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va vaincre toutes ses armées. Et nous avons étudié la fin de Matthieu 24, puis aussi Matthieu 25, qui sont, je vous rappelle, il y a des paraboles du bon et du mauvais serviteur, aussi des vierges folles et des vierges sages, et aussi la parabole des talents. Ensuite, nous avons vu en parallèle Matthieu 13, où il y a sept paraboles. La deuxième et la septième correspondent à la fin de la tribulation. On sait aussi, avec cette fameuse parabole que Jésus donne aussi, quand Jésus dit « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger », etc.,
etc.,
que c'est une parabole juste à la, pour la fin des temps, la fin de la tribulation,
et
qui montre clairement combien il va y avoir de vrais chrétiens qui vont aider des vrais chrétiens qui vont être tellement persécutés. Donc nous avons étudié tout cela. Ensuite, Jésus reprend finalement le leadership de la gestion de la terre, sa propriété. Et nous savons qu'au chapitre 20, Satan va être enchaîné pour 1000 ans. Et là, on rentre dans la dernière dispensation, dernière saison, où le monde sera encore dans cette condition, c'est-à-dire qu'il y aura encore des traces de la corruption du péché. Ensuite, nous avons étudié ces 1000 ans-là. Tout ce que l'Écriture décrit, Jésus est bien sûr roi à Jérusalem. Nous savons que tout au début de la tribulation, il va y avoir la deuxième phase de la première résurrection. La Bible est très claire là-dessus. Donc tous ceux qui ont été martyrisés pendant la tribulation vont ressusciter. Ils auront une récompense, mais qui sera moindre que la nôtre. Et nous régnerons sur la terre. Et là, nous avons vu qu'il y aura la justice. Il y aura la vraie paix. Normal, celui qui va diriger tous les systèmes de ce monde, c'est le meilleur des archis, meilleur des gestionnaires. Il va gérer sa propriété. Politiquement, le roi des rois, la royauté, la théocratie. L'économie, une ultra-prospérité. Et le social, une justice totale. Tout ce que vous ne voyez pas sur la terre. Aujourd'hui, il faut se battre pour gagner de l'argent. Il faut se battre contre l'injustice. Et la corruption gangrène partout. Les persécutions contre le vrai évangile. Les systèmes de ce monde qui refusent que nous parlions librement de Christ et que la puissance de Dieu puisse se manifester. Donc tout ça, ça sera éradiqué. Nous avons vu plein de caractéristiques du millénium très intéressantes. La longévité sur la terre, parce qu'il va y avoir des gens qui vont naître sur la terre, nous le savons, pendant 1000 ans. Et puis nous avons vu que c'était les gens qui vont traverser la tribulation, qui vont se convertir pendant la tribulation, qui ne seront pas morts,
et
qui rentreront dans le millénium. Eux, je vous le rappelle, auront des enfants, et c'est les générations qui vont venir pendant 1000 ans. C'est sur eux que nous allons régner d'ailleurs. Je vous rappelle qu'au début du millénium aussi, Dieu va faire mourir tous les inconvertis.
C'est
très clair dans les différentes paraboles que nous avons mentionnées dans Matthieu 25 et Matthieu 13. Ensuite, nous savons qu'il va y avoir une dernière rébellion. Et nous avons vu qu'effectivement cette rébellion va venir. C'est la dernière que Dieu va permettre. Parce que en fait, Satan va être lâché de sa prison.
Du Tartaros.
Et là, il va séduire une dernière fois les nations. Et on a répondu à une question que beaucoup de chrétiens ont. En disant, mais comment est-ce que des gens vont encore se rebeller? Est-ce que c'est nous?
Non,
je vous rappelle que toute personne qui aura un corps ressuscité et qui aura un corps glorifié, c'est-à-dire avec sa récompense, aura un corps incorruptible. C'est-à-dire qu'il sera immortel, qui ne pourra jamais mourir. Pourquoi ? Parce que nous ne pourrons jamais pécher. C'est ça la gloire qu'il y aura sur nous. Tu seras délivré de ton pire ennemi. Qui s'appelle la chair. Plus de tentation. Plus de désir de faire n'importe quoi. Une vie en parfaite harmonie avec Dieu. Plus aucune mauvaise pensée. Plus aucune mauvaise action. Plus de tentation. Plus rien qui va à l'encontre de Dieu. Nous serons parfaits. Mais le monde ne sera pas encore parfait. Mais il y aura la restauration du royaume. Donc Dieu va venir régner sur la terre. Donc cette dernière rébellion, nous avons vu venir de Russie. Gog et Magog, c'est la Russie. Et ils vont, en fait, c'est des gens qui seront de faux convertis ou des gens qui ne seront pas convertis parce qu'ils n'auront pas voulu accepter le Seigneur. Pendant le millénium. Et là, il va y avoir une dernière rébellion qui va être matée tout de suite. Nous l'avons vu. Alors maintenant, nous allons étudier et terminer le chapitre 20, du verset 11 au verset 15. Et nous allons parler du jugement dernier. C'est là où nous en étions arrêtés la dernière fois. Donc du verset 11 au verset 15, là on sait que le diable est mis hors d'état de nuire pour l'éternité, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais ressortir de la prison des esprits. Mais nous allons étudier certaines choses ce soir qui sont importantes, qui vont vous éclairer sur certaines expressions. Donc verset 11, puis je vis un grand trône blanc celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés. Regardez bien. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, ici, il y a un certain nombre de choses qu'il faut bien comprendre. Alors, il y a deux passages, d'abord, qui nous parlent, entre autres deux passages, qui nous parlent du jugement dernier. Enfin, deux, trois, quatre même. On va regarder dans 2 Pierre 2, 9 à 14. 2 Pierre 2, 9 à 14. Parce qu'il existe un jugement dernier. Je vous rappelle que nous sommes passés en jugement le jour même où tu as reçu Jésus comme sauveur personnel. Ton jugement a été déjà rendu. C'est Christ qui a payé le prix pour toi, la punition pour toi.
C'est
pour ça qu'un chrétien ne sera jamais jugé à nouveau. Il aura le tribunal de récompense. Nous l'avons étudié, mais ça c'est pendant le temps où il y aura la tribulation sur la terre. Nous serons récompensés. Nous l'avons étudié. Et je vous rappelle que j'ai répondu à cette question des histoires de rétrogrades ou des faux chrétiens. Parce que parfois on voit des gens qui ont l'air de marcher avec Dieu pendant un temps et qui après rétrogradent. Mais je vous dis, ceux qui sont vraiment nés de nouveau et qui rétrogradent ne perdent pas leur salut mais ils perdent leur récompense parce qu'ils ont cru en Jésus, ils ont reçu Jésus et ils perdent leur récompense parce qu'ils dévient de la voie du Seigneur. Mais la plupart des, enfin, les vrais rétrogrades, ce qu'on appelle un vrai rétrograde, c'est-à-dire quelqu'un qui est né de nouveau au départ et qui revient en arrière, c'est une personne qui vous dira qu'elle croit croit toujours en Jésus. Et que même elle prie encore. Mais elle n'a pas sa vie en règle avec le Seigneur. Donc Dieu ne va pas lui parler. Dieu ne va pas la diriger. La seule chose que le Seigneur lui dit, repens-toi.
Et reviens
à moi. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Alors maintenant, il y a aussi beaucoup de gens qui fréquentent des églises,
qui
sont juste des adhérents, qui sont tout à fait d'accord, qui répètent les belles prières que vous faites, mais qui n'ont aucun témoignage. Ils n'ont jamais eu la vie de Dieu en eux. On
faut
faire attention à ces différents types de personnes. La Bible nous dit ici, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au quoi jour du jugement. Il est bien dit à quoi? Au jour du jugement. Il y a bien un jour du jugement. On peut lire rapidement jusqu'au verset 14. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, c'est-à-dire leur chair, c'est-à-dire ils sont irrégénérés, ils ne sont pas nés de nouveau, et qui sont nés pour être pris et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption. Verset 3, recevant ainsi le salaire de leurs iniquités, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent de leur tromperie, dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous, c'est-à-dire ils essayent de vous attirer. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Donc ce sont des pécheurs. Ça, c'est tout à fait la description des pécheurs. Alors regardons un autre passage, dans 2 Pierre, chapitre 3 maintenant, versets 1 à 7. 2 Pierre 3, 1 à 7.
Kuva ku murongo wa mbere gushika kuri ndwi.
Donc la Bible va encore nous parler du jugement. Voici des bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, c'est Pierre, c'est de sa deuxième épître. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant « Où est la promesse de son avènement ?» En fait, ils se moquent, ils disent, c'est des gens qui connaissent certaines choses sur la parole de Dieu, mais ils s'en moquent. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Verset 6, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. C'est le déluge dont on parle ici, hein, le déluge avec Noé. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Tu peux lire le verset 7, s'il te plaît, seulement, Kirundi. Merci.
Ariko amajuru y'ubu bonisi iryo jambo ryabibikiye kuzosha kugira ngo birindwe gushitsa ku munsi w'amateka wo gutikira kw'abatubaha Imana.
Alors, ensuite on a 1 Jean chapitre 4 verset 14 à 19.
Yohana wa mbere gice cha 4 kuva kuri 14 gushika kuri 19.
1 Jean 4 14 à 19.
Yohana wa mbere gice cha 4 kuva kuri 14.
La Bible nous montre le jugement, il y a un jour du jugement dernier.
Aho se twagiye turasoma twumva ngo hari umunsi w'amateka, ku munsi w'amateka.
On va voir que c'est évidemment là où il va y avoir la deuxième résurrection.
Ano batwereka yuko hazobaho kuzuka kugira kabiri.
Et c'est réservé pour ceux qui ne sont jamais nés de nouveau quand ils sont passés sur cette terre. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est-à-dire nous sommes fils et filles. C'est en cela que l'amour est parfait ou mature. Le mot parfait, hein, le parfait veut dire toujours mature. En nous, afin, regardez bien, afin que nous ayons quoi ? De l'assurance au jour du jugement. Tu peux lire le verset 17, s'il te plaît.
Ngo icyo nico kimaze guhingura urukundo muri twebwe kugira ngo tuze dushire ubwoba ku munsi w'amateka kuko kwari ariko turi muri isi.
Alors, voici les caractéristiques du jugement dernier.
Reka turabe rero ibintu bizogenga umunsi w'amateka, umunsi w'urubanza.
Numéro 1, c'est la résurrection des injustes.
Ikintu cya mbere kizoba n'ukuzuka kw'abagabitanya.
La résurrection des injustes.
Izuka ry'abagabitanya.
C'est donc la deuxième résurrection.
Ni izuka rigira kabiri.
À la fin du millénium.
Ku mpera y'imyaka igihumbi.
Dieu va faire donc mourir tous les inconvertis encore.
Aho abapagani Imana zokongera bazimanganye.
Donc, c'est ceux qui viennent, entre guillemets, de la mer. Je vous rappelle que la mer, c'est toujours le symbole des peuples.
Pas
toujours, souvent. Dieu va les faire mourir instantanément à la fin du millénium. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va prendre tous les morts qui n'ont jamais été sauvés.
Imana ifate abo bose bapfuye batigeze bakira Yesu.
Tous ceux qui sont en enfer.
Abari mu muriro,
ils vont sortir.
Baveyo,
et ils vont ressusciter.
Bazuke
pour la deuxième résurrection.
Nizuka rigira kabiri.
C'est la résurrection de la honte.
Nizuka rero ry'ibimaramare.
Regardons encore, je sais que nous avions vu ce verset la dernière fois dans Acte 24.
Reka turabire hamwe kandi muri
verset 15. Là, c'est très clair, la Bible nous dit, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et une des injustes.
Yuko hazoba ukuzuka kw'abagororotsi n'ukuzuka kw'abagabitanya.
Donc c'est très important de comprendre la résurrection des justes.
Uruba hari kuzuka kw'abagororotsi.
Et la résurrection des injustes.
N'ukuzuka kw'abagabitanya.
Il y a la première résurrection.
Uko kw'abagororotsi n'ukwa mbere.
Pour ceux qui sont nés de nouveau.
Kubavutse ubwa kabiri n'izuka rya mbere.
Qui se passera en trois phases, je vous rappelle.
Ndabibutse ko bizoba mu ntambwe zitatu ivyo.
Phase 1, lorsque Jésus vient prendre son église à l'enlèvement. Phase 2, 7 ans plus tard. Lorsque Jésus va ressusciter, c'est la deuxième phase de la première résurrection, des martyrs, ceux qui sont morts en Christ, qui n'ont pas pris la marque de la bête, mais qui ont été tués pour leur foi pendant la tribulation.
Kabiri abantu bishwe muri ya myaka yihamwa bakicwa nk'abamartiri azobazura.
À la fin du millénium. Tout le monde va mourir. Ceux qui ont marché avec Dieu, pas nous, sauf nous. Nous on ne peut plus mourir.
Mais
rappelez-vous, tous ces gens qui vont naître pendant le millénium.
Il
y en a qui vont marcher avec le Seigneur.
Il
y en a qui ne vont pas marcher avec le
Seigneur.
Et qui vont se rebeller à la fin lorsque le diable va venir créer une dernière rébellion. Donc à la fin du millénium, 1000 ans plus tard, quand Jésus a régné, pendant 1000 ans,
eh
bien Dieu va faire la troisième phase de la première résurrection. Donc tous ceux qui seront nés de nouveau participeront à la première résurrection. Maintenant, il y a la deuxième résurrection. Ce sont tous ceux qui sont morts sans
Christ.
Donc jusqu'au moment où il y aura la fin du millénium. Dieu va tous les faire ressortir, les ressusciter. Et ils vont passer devant le grand trône blanc du jugement de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit clairement. Je vous rappelle au verset 11 de l'Apocalypse 20. Donc des livres sont ouverts, tout le monde passe devant le grand trône blanc du jugement de Dieu, tous les inconvertis. Donc ça c'est la deuxième chose. La première c'est qu'il ressuscite pour la deuxième résurrection. Avec un corps de la honte, eux ils n'ont pas un joli corps immortel comme nous, non pas du tout. C'est le corps de la honte. Je vous rappelle que l'homme a été créé en trois dimensions. Lorsqu'un homme meurt, il devient en deux dimensions. Mais dans la fin des temps, tout le monde retrouve trois dimensions. Parce que l'homme n'est pas un ange.
L'homme
est un homme
qui
a été créé esprit, âme et corps.
Yaremwe afise impwemu umushaha n'umubiri.
Donc tout le monde va passer par une résurrection. Ceux qui seront heureux, ce sont ceux qui font part à la, qui ont part à la première résurrection. Par contre, ceux qui vont avoir part à la deuxième résurrection, ce sont tous les pécheurs. Et là, ils vont passer devant le trône du jugement de Dieu. La Bible nous dit que Dieu va ouvrir des livres et que Dieu va prononcer des jugements. Nous serons là aussi pour juger ces inconvertis. Et le péché, d'abord, on leur reprochera principalement un péché. Tous. Le péché qui sera reproché à tous, c'est de ne pas avoir cru en Jésus. De ne pas avoir accepté qu'ils étaient une créature de Dieu et qu'ils devaient dépendre de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en relation avec lui, qu'il dépende de son autorité. C'est le péché qui sera reproché à tous les inconvertis, plus tous les autres péchés qu'ils auront commis. Rappelez-vous d'une chose. Tous les péchés qui ont été commis sur cette terre, des hommes et des démons, et du diable, tous seront jugés. Même les vôtres et les miens ont été déjà jugés. Tout péché qui a été commis sur cette terre est quelque chose qui sera jugé par Dieu. Sauf que nous, quand nous avons accepté Jésus, nos péchés ont été jugés en Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous avons de l'assurance devant ce jour du jugement, parce que ce jour du jugement, nous n'avons pas à passer devant le grand trône blanc de Dieu. Nous ne serons parmi les juges et nous crierons condamné. Toi condamné, toi condamné, les uns après les autres. Et vous savez, vous reverrez des gens à qui vous avez parlé de Jésus et qui n'auront jamais accepté le Seigneur. Vous verrez des gens qui vous auront fait du mal et qui se seront moqués de vous. Des gens qui vous auront humilié. Des gens qui n'auront jamais réglé des problèmes qu'ils vous ont fait. Vous les verrez défiler devant vos yeux, les uns après les autres. Et nous prononcerons leur condamnation. Parce que les péchés qu'ils auront commis n'auront pas été jugés en Christ. Ils iront dans le lac de feu. Dieu est juste. Il dit, j'efface le péché gratuitement. Mais Dieu est juste aussi. Tous les péchés qui ont été commis sur cette terre doivent être jugés. Je vous le dis, nous, ils ont déjà été jugés en Christ. Et pour ces inconvertis, ils seront jugés ce jour du grand jugement de Dieu. Ça, il faut le comprendre. Vous savez, parfois, on se dit, oui, bon, il y a des choses, de toute façon, Dieu ne les jugera jamais. Non, Dieu jugera tout. Je ne sais pas comment Dieu fait pour avoir autant d'archives, mais là, il va ouvrir les archives du ciel. Et chaque personne, chacun de ces inconvertis qui sera ressuscité pour la deuxième résurrection, on jouera le DVD de sa vie. Tu es né là. Tu as grandi là, voici ton premier péché, voici quand tu as entendu mon évangile, voici comment tu ne m'as jamais cherché, voilà comment tu m'as rejeté, voilà comment tu as adoré des démons, voilà ce que tu as fait ce jour-là, voilà ce que tu as fait là, ce que tu as fait là. Ils verront tout défiler comme ça. Et nous prononcerons leur jugement. C'est pour ça que ça s'appelle le jugement dernier. Ce jour, ils seront jugés. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 12, 36.
Matthieu 12, verset
36. Jésus est clair. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes se rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées.
Ngo umunyange so nziza aravuga ngo kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'impuhemo bazoribazwa ku munsi wa mateka.
L'inconverti
umupagani
devra passer devant ce trône.
Azocha imbere y'iyo ntebe y'imanza.
Il sera jugé.
Azocibwa urubanza.
Et sa condamnation,
urubanza gwiwe,
la condamnation de tous ces inconvertis,
urubanza bazocibwa bose,
c'est la seconde mort, la mort éternelle.
Nivyo bita urupfu rugira kabiri, urupfu rw'ibihe bidashira.
Alors il faut bien comprendre ce que ça veut dire.
No gutahura rero ico bisobanura.
Parce que vous savez, il y a des gens qui pensent,
hari abantu bibaza ngo,
que une fois que les gens seront jugés,
ngo abantu nibamara gucibwa imanza,
ils disparaîtront de l'existence.
Ngo bazoca bazimangana ntibasubire kubaho.
Non.
Oh yeah.
Absolument pas.
Oh yeah.
L'homme est un être éternel. Ça veut dire, qu'il existera pour l'éternité. J'espère que Steve traduit super bien. Ça va? Vraiment, merci. Merci parce que ce n'est pas facile de bien comprendre ça. Ça veut dire que quand un être humain est créé, eh bien, il ne cessera jamais d'exister dans l'éternité, dans l'infini de l'éternité. C'est pour ça que la Bible parle de vie éternelle. Mais elle parle aussi de mort éternelle. Et la mort éternelle n'est pas l'inexistence. Parce que les êtres spirituels ont un commencement. Parce que nous sommes des créatures et la créature procède du Créateur. Donc, un être spirituel a un commencement. Les anges ont été créés un jour. Chaque homme est créé au bout d'un certain temps de la conception dans le ventre de la maman. Dieu crée un esprit humain à ce moment-là et l'infuse dans le ventre, dans la matrice de la maman. Oui, madame, mesdames, vous vivez des choses que nous les hommes nous expérimenterons jamais. C'est le miracle de ce que Dieu a fait pour que vous puissiez être des Ève, des porteuses de vie.
Ce
n'est pas seulement le processus biologique qui se crée à ce moment-là. Mais Dieu insuffle un esprit dans la matrice de la dame. Et à ce moment-là, ce fœtus est un être vivant à ce moment-là. Alors, un être spirituel ne cesse jamais d'exister. Ça veut dire qu'il est toujours conscient de son existence. Et c'est pour ça que la Bible va nous parler de vie éternelle et de mort éternelle. Regardons à partir du verset 13, Apocalypse 20, jusqu'au verset 15. On regarde, on va encore voir ça. 13 à 15. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon les œuvres. Alors je vous rappelle que la mer ici, c'est le symbole des peuples. Okay, tous les êtres humains qui sont dans un corps mortel vont mourir à la fin du
millénium.
Ensuite, il est dit donc, et la mort et le séjour des morts, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ok, verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés. Regardez bien, la mort et le séjour des morts. Ici, bien sûr, on parle de l'enfer.
furent
jetés dans les temps de feu. Vous rappelez, nous avons étudié le monde invisible. Vous rappelez que nous avons étudié que le séjour des morts, c'est cette prison des esprits pour les esprits humains. Qui était séparée en deux parties, le sein d'Abraham pour ceux qui venaient avant la venue de Jésus. Et la partie de l'enfer, là où tous les pécheurs ont toujours été à partir du moment où ils mouraient physiquement. Et il est dit ici, c'est la seconde mort, les temps de feu. La seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Il est dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire qui n'est pas né de nouveau, fut jeté dans les temps de feu. Alors, l'enfer, alors comprenez bien ce que je vais dire ici. Parce qu'il y a eu parfois soit des enseignements qui ont été faits là-dessus et qui ont été tordus, ou soit des gens qui ont commencé à enseigner n'importe quoi là-dessus. L'enfer n'est pas une place où les gens vont y être pour l'éternité. L'enfer est une prison d'esprit pour les êtres humains qui quittent leur corps, qui meurent sans Jésus. Mais la Bible nous dit que ces gens-là vont ressortir, ces inconvertis vont ressortir de l'enfer, vont ressusciter au moment du jour du jugement de Dieu. Et après, la Bible nous dit quoi? Une fois leur jugement prononcé, c'est-à-dire mort éternelle, seconde mort, alors, est-ce qu'ils vont retourner en enfer? Non, la Bible nous dit qu'ils sont dans un autre endroit qui s'appelle le lac de feu. L'étang de feu. Et d'ailleurs, même l'enfer sera jeté dans l'étang de feu. Où ces gens-là vont être tourmentés pour l'éternité. Alors, je vais vous donner des synonymes dans la parole de Dieu qui vont vous montrer un certain nombre de choses à propos de cette expression. Parce qu'il existe différents synonymes. En fait, le lac de feu dont la Bible nous parle dans l'Apocalypse 20 à la fin, c'est la même chose que l'expression que Jésus a utilisée qui s'appelle la
Géhenne.
Vous vous rappelez de cette expression, la Géhenne, dans les évangiles? C'est la même chose, sauf que la Géhenne, pour les Juifs, c'était très parlant. Je vais vous dire pourquoi. Regardons ensemble dans Matthieu 5, versets 22, 29 et 30.
Matthieu 5,
versets
22, 29
et
30.
Donc Matthieu 5, 22, il dit, mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raca, c'est-à-dire imbécile, c'est ça que ça veut dire, raca, mérite d'être puni par le Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil des Juifs, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Regardez bien cette expression, le feu de la
Géhenne.
Donc ici, il est parlé de la Géhenne. Alors, regardons maintenant le verset 29. Alors, ce passage-là a tellement mal été compris. On va lire à partir du verset 28, parce que sinon, les gens ont toujours des questions avec ça. Il est dit, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté, où ça ? Dans la géhenne.
Ariko je ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwifuza abamaze gusambana nawe mu mutima wiwe ijisho giwe giburyo igisho cyawe giburyo n'ijya gutsitaza uri nogore urite kure byo kubera byiza gupfa ijisho cyawe rimwe hako umubiri wawe wose wotabwa muri gehinom.
Regardons verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la
géhenne.
Donc le Seigneur nous parle de la
géhenne.
Et y aller avec son corps entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette expression qui nous paraît si éloignée à nous? J'ai jamais, dans tous mes voyages où j'ai été, j'ai jamais vu une ville dans aucun pays qui s'appelle
Géhenne.
Peut-être que vous, vous y avez été quelque part, mais je ne sais pas. Parce que la Géhenne, c'est très particulier. Nous allons voir que les Juifs, c'était très parlant pour eux. En fait, l'expression la Géhenne était très bien comprise par les Juifs. Parce que c'était la vallée de Hinnon, le Géhinnon.
Géhinnon.
Ge, ça veut dire vallée en hébreu. Et Hinnon, c'était un endroit donc au sud de Jérusalem. Et c'était là où, en fait, pas très loin de Jérusalem, quand vous vous approchiez de cette vallée, ça puait terriblement. Parce que c'était un endroit où on brûlait toutes les carcasses d'animaux constamment. Les déchets d'animaux que l'on ne mangeait pas, mais aussi les animaux qui mouraient par exemple de maladies. Et vous savez comme moi, quand vous brûlez de la chair animale, ça sent très loin. Et cette vallée était réputée pour avoir un feu qui ne s'éteignait jamais. Jour et nuit, on brûlait ces carcasses. On les apportait et tout le temps, il y avait un feu qui ne s'éteignait point. De chair qui brûlait. On en sentait cela très loin et ça sentait très mauvais. Donc c'était l'idée ici, bien sûr, où Jésus voulait décrire la condition des perdus dans le feu qui ne s'éteint jamais, là où il y a des pleurs et des grincements de dents, comme disait Jésus, là où les inconvertis iront avec leur corps ressuscité, avec leur jugement prononcé, et où ils seront tourmentés pour l'éternité. Les pires tortures qu'ils subiront pour l'éternité. Et croyez-moi, on dira merci au Seigneur.
Quand
on verra ces gens être jugés et partir pour l'éternité où ils seront tourmentés. Déjà en enfer, ils seront tourmentés. Mais ils seront esprit et âme. Quand ils ressusciteront à la fin du millénium pour la deuxième résurrection, ils seront tourmentés aussi dans leur corps. Esprit, âme et corps. Et ce pour l'éternité. Le lac de feu est une réalité. C'est la deuxième mort, nous dit la parole de Dieu. C'est là où tous ceux qui auront désobéi à Dieu iront en ayant leur corps ressuscité pour la honte, et ils souffriront pour l'éternité. Dieu n'a pas créé l'enfer ou le lac de feu pour que l'homme y soit. Mais Dieu est le juge de l'univers. Dieu exercera ses justes jugements. Jésus a été puni à notre place. Il a été jugé à notre place. Nous bénéficions de ce que Christ a fait. Nous avons le choix de dire oui ou non. Et ceux qui disent non subiront les conséquences de leur péché. Il y a une justice divine. Le péché sera jugé. Et les inconvertis paieront pour ce qu'ils ont fait. Ne pensez pas qu'ils pourront échapper au jugement de Dieu. Alors, il est dit aussi que la quatrième chose de ce jour du jugement, ça va être le jugement du diable et des démons. Dans 1 Corinthiens 6, verset 2, 1 Corinthiens 6, 2, la Bible nous dit: ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? J'avais un autre verset où nous jugerons les anges. 1 Corinthiens 6,
ngo ntimuzi uko abera ari bo bazocira abisurubanza ni ku murongo wa kabiri kandi ko ari mwebwe muzocira abisurubanza.
Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons quoi? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Donc nous serons des juges, frères et sœurs. Et
ce
n'est pas les anges qui sont restés fidèles à Dieu que nous jugerons. Eux n'ont pas besoin de jugement. C'est tous ceux qui ont été infidèles à Dieu. Regardons ensemble Jude, verset 6. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de chapitre dans Jude, il y a juste des versets. Verset 5 et verset 6. Jude, l'épître de Jude.
Non, ce n'est
pas Juge, c'est Jude. Nouveau Testament, avant l'Apocalypse. Et qu'il a réservé pour le jour du grand jugement. Alors on peut peut-être regarder un peu verset 5, oui merci. Je veux que vous rappeliez à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et après avoir tiré du pays d'Égypte, peuple d'Israël, fit ensuite périr les incrédules. Verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure.
Ndagomba kubibutsa naho byose musanzwe mubizi yuko umwami Imana imaze gukirisha bwa bwoko kubakura mu gihugu cya Egiputa hanyuma yahoneje abatizeye n'abamarayika batagumye mu bukuru bwabo ariko bataye ahantu habo ibarindira kuzocigwa kwiteka byo ku munsi uhambaye bari mu minyororo idashira no mu mwiza.
Donc nous savons que nous serons participants au jugement des anges. Nous savons que pour l'instant, un certain nombre de ces anges qui ont péché ont été capturés. Je vous rappelle, nous avons étudié cela. Mais à la fin des temps, à la fin du millénium, tous les anges seront capturés. Les anges qui ont péché, les démons, ils seront tous pris et ils seront jugés. Pour aller où? Avec le diable. Dans le lac de feu. Tous les ennemis de Dieu seront sous ses pieds. Ils seront mis hors d'état de nuire.
Regardons
un verset qui va nous le montrer clairement. 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 24 à 28. Vous savez, le jugement de Dieu est une réalité. Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils ne veulent même plus prêcher sur ça d'ailleurs. Mais il y a l'équilibre entre l'amour de Dieu et le jugement de Dieu. Il faut être bien clair là-dessus. Dieu veut vraiment nous, je dirais que nous avertissions les êtres humains. Dieu t'aime, tu dois te repentir. Et si tu ne le fais pas, un jour tu seras jugé par Dieu.
Ce
n'est pas la blague. C'est pas une belle une histoire qu'on raconte. C'est une réalité que nous devons bien comprendre pour l'évangélisation d'ailleurs. Le message est clair. Sauvez-vous de cette génération perverse. Repentez-vous, c'est ce que Pierre prêchait. Soyez délivrés de vos péchés. C'est ce que la Bible nous montre clairement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, 1 Corinthiens 15, 24, après avoir détruit toute domination, regardez bien, toute autorité et toute puissance. L'aspect ici de détruire ne veut pas dire, en fait c'est anéantir, mais ça ne veut pas dire faire cesser d'exister, il faut faire attention à la différence. Hein. En fait, mise hors d'état de nuire, voilà. C'est-à-dire, ces puissances, ces autorités, tout ce qui va être à l'encontre de Dieu sera mis hors d'état de nuire. C'est-à-dire n'aura plus la capacité de faire quoi que ce soit. Donc, mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire n'ayant plus la capacité de faire quoi que ce soit contre Dieu. Jamais.
Verset
25. Car il faut qu'il règne, millénium, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il règne, le millénium ici. Vous voyez, dans l'entrée à l'entrée du millénium, Jésus va mettre hors d'état de nuire tous les systèmes de ce monde. Mais après, à la fin du millénium, il va mettre hors d'état de nuire tous les ennemis spirituels. Jusqu'au bout. C'est-à-dire, ni diable,
Satan,
ni démons, ni inconvertis ne pourront faire quoi que ce soit maintenant dans la création. Alors, ensuite, verset 26, il est dit, le dernier ennemi, regardez bien, qui sera détruit, c'est la mort, verset 27. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui avait été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose, c'est-à-dire le Père, est accepté. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a lui a soumis toutes choses, afin que Dieu, oh là là, on verra ce petit morceau de phrase qui est absolument extraordinaire pour notre éternité, afin que Dieu soit tout dans tous.
Biharugwamo ariko niyamara gushikirizwa inganje ya byose niho numwana ubwiwe azoganzwa niyamuhaye inganje ya byose ngo Imana ibe byose muri byose.
Donc l'enfer, nous savons, va faire ressortir tous ces morts.
Turaze rero ko kuzimu kuzosohora abapfuye bose.
Mais l'enfer sera jeté dans le lac de feu.
Ukuzimu kurimo umuriro uzosohora abapfuye bose
avec tous les inconvertis ressuscités pour la deuxième résurrection.
Umuriro utabwe mu kiyaga cy'ibizukuru
mu rugo.
Et
ils seront tourmentés pour l'éternité.
Le
diable et les démons, pareil.
Satan
La mort, le séjour des morts, n'existeront plus. Tous les ennemis de Dieu seront mis hors d'état de nuire pour l'éternité. L'histoire avec le diable ne se reproduira plus jamais. Dans sa rébellion, ni même l'homme ne pourra, nous ne pourrons plus jamais pécher, je vous le rappelle. Tous les hommes qui vont aller dans la nouvelle création que Dieu va faire auront des corps ressuscités et glorifiés, c'est-à-dire avec leur récompense. Nous aurons le grade le plus élevé des récompenses. Ensuite, le deuxième grade qu'il y aura, ce sont ceux qui seront convertis pendant la tribulation. Et le troisième grade,
eh
bien, ce sera ceux qui se seront convertis pendant le
millénium.
Et devinez dans quel grade vous serez.
Absolument.
C'est nous qui aurons la récompense les plus grandes. Pourquoi ? Parce que nous avons accepté Jésus. Alors que nous n'avons rien vu du Seigneur, personne n'a jamais vu Jésus face à face. Seulement par la foi. En ayant le choix de dire oui ou non au Seigneur. Il y a quand même peu de gens en proportion qui ont vécu des persécutions à la torture et jusqu'à mourir en étant des martyrs sur cette terre pendant le temps de l'Église. Il y en a eu, mais ce n'est pas la grande majorité des chrétiens. On nous a prêché Jésus. Nous avons reçu le Seigneur pendant le temps de la grâce. Alors que nous aurions pu vivre pour nous-mêmes. À 100%. Je vais juste commencer le chapitre 21. Qui va être vraiment la consommation du salut et qui va être l'instauration du royaume de Dieu sur sa propriété la terre. Je vous rappelle que pendant le millénium, Jésus va restaurer le royaume. C'est-à-dire qu'il reprend les rênes des systèmes de ce monde et dirige ce monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais là, il va instaurer son royaume. C'est-à-dire que Dieu sera tout et tout sera Dieu. Donc une perfection totale. Il n'y aura plus de traces de la corruption du péché. Alors que pendant le millénium, il y en aura encore. C'est ça qu'il faut comprendre la différence. Alors, il est dit verset 1 du chapitre 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
Igice cya 21 ngo mbere ngo mbone ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye n'ikiyaga nticari kikiriho. Mbone umugwa wera Yerusalemu musha wururu kuva mu ijuru ku Mana.
Alors là, on va rentrer dans les deux derniers chapitres de l'Apocalypse. Ça va clôturer toute la révélation sur la fin des temps. Et c'est là où nous allons découvrir la dimension de l'éternité. Ce qui nous attend pour l'éternité. L'héritage qu'il nous a donné se manifestera à ce moment-là à 100%. Et ces deux chapitres vont nous parler des caractéristiques de cette vie éternelle. Là, elle sera pleinement en manifestation. Aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Mais tu es encore dans ton corps. Et tu es encore dans un monde où les systèmes de ce monde sont gérés par l'ennemi. Jésus règne dans ton cœur. Mais des fois, il ne règne pas dans ton âme et des fois, il ne règne pas encore dans ton corps, ni dans tes finances, ni dans beaucoup de domaines. C'est la croissance spirituelle. Ce sont les défis que nous avons. Ce sont de tous les jours. Dans un monde qui a été touché, souillé par le péché. Et nous avons du mal à comprendre ces choses parce que nous sommes nés depuis le premier jour où nous sommes sur cette terre. Dans ce monde qui a été souillé par le péché. Et nous avons du mal à comprendre et à imaginer un monde où Dieu sera tout en tous. La seule fois où on commence à entrer dans cette dimension, c'est quand nous sommes dans sa présence. Et quand d'un seul coup, sa parole nous parle d'une façon incroyable. Ce sont ce que la Bible appelle les arts de l'esprit, l'avance. Il y a juste un petit verset que j'aimerais lire, mais je vais essayer de le retrouver. Je crois que c'est dans Hébreux chapitre 10. Attendez, je vais le retrouver. Je suis en train d'y penser ici. C'est Hébreux 6, versets 4 et 5. Qui nous parle d'ailleurs de la perte du salut pour les gens qui sont matures en Christ. Mais ce n'est pas mon sujet ce soir.
Mais
c'est quelque chose d'ailleurs de très difficile à réunir comme condition pour perdre son salut aujourd'hui.
Ce
sont seulement des gens qui sont matures en Christ qui réunissent ces conditions.
Et
qui renie volontairement Jésus.
Qui
peuvent éventuellement rentrer dans les conditions de Hébreux chapitre 6. Mais j'aimerais que vous puissiez regarder un petit morceau de verset qui est intéressant. Il est dit quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, c'est-à-dire le salut. Qui sont devenus participants à l'Esprit Saint, c'est-à-dire baptisés du Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, c'est-à-dire qui ont compris comment vraiment la parole de Dieu agit vraiment, mais regardez bien, et qui ont goûté aussi les puissances du siècle à venir. Les puissances du siècle à venir. C'est quand tu goûtes la puissance de Dieu qui des fois tu dis Seigneur tu es grand et puissant. Ça c'est juste une goutte de la puissance de Dieu dans l'univers de sa suprapuissance. Dans l'infini grandeur de sa puissance. Et des fois, vous voyez, par exemple, dimanche, on a entendu ce témoignage de la guérison du cancer de notre sœur. Et on sentait que beaucoup de gens dans la foule étaient touchés ici. Des gens qui ont pleuré, des gens qui vraiment étaient touchés. Et après, on a vraiment éclaté en louange.
Mes
frères et sœurs, excusez-moi de le dire, même si c'est grand pour un homme, c'est tout petit pour Dieu. Par rapport à ce qu'il est capable de faire et par rapport à ce que nous allons découvrir dans l'éternité. Quand Dieu va faire ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, qui n'est pas une révélation du Nouveau Testament. C'est une révélation de l'Ancien Testament qui nous a été rappelé dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas quelque chose que Jean a reçu comme révélation et il va dire, voilà, moi seul, j'ai reçu la révélation d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Regardons ensemble trois passages. Deux dans l'Ancien Testament et même un dans le Nouveau Testament. Qui n'est pas de Jean. Ce sera Pierre qui va nous en parler. On va regarder deux passages d'abord d'Ésaïe. Ésaïe 65, 17. Donc 65, 17. Et s'il vous plaît, après 66, 22. 65, 17 et 66, 22. 65:17, c'est Ésaïe qui va prophétiser. Vous savez, il y a une partie d'Ésaïe qui est appelée l'Apocalypse d'Ésaïe. Parce que Ésaïe va donner, vous vous rappelez, quand on a étudié le millénium, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de passages d'Ésaïe qui nous parlaient du millénium, des conditions de la terre pendant le royaume messianique, c'est-à-dire le millénium.
C'est
le livre du Nouveau de l'Ancien Testament qui nous en parle le plus d'ailleurs. Mais là, Ésaïe va avoir aussi une révélation sur l'éternité. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront même plus à l'esprit. C'est toujours Ésaïe. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Donc on parle bien de création à nouveau. Cieux et terre. Alors,
ce
n'est pas très clair si c'est ciel ou cieux. On va essayer d'en discuter la prochaine fois. Parce que rappelez-vous que là, c'est très clair dans la révélation que nous avons, il y a trois cieux. Mais on va voir que le troisième ciel n'aura plus lieu d'exister après.
Puisque
Dieu réalisera son merveilleux plan qu'il a depuis toute l'éternité. C'est-à-dire qu'on vive avec lui. Qu'on vive, que sa créature soit parmi lui. On va regarder maintenant un passage du Nouveau Testament où c'est Pierre qui va nous parler dans 2 Pierre 3, 12 et 13. Il est dit: tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. On expliquera ça la prochaine fois. Verset 13, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. La prochaine fois, nous reprendrons ces textes-là. Et je vous montrerai comment Dieu va recréer ces choses. Et je vous montrerai exactement ce que signifie ce terme nouveau. Qui a souvent mal été interprété. Nous verrons un petit peu dans le grec ce que ça veut dire. Et nous allons découvrir des choses très intéressantes. Mais ce sera pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne soirée à tous.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.